BFM Business présente.
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous j'ai avez dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Audrey Tcherkov, Thomas Asportas, Good Evening Business.
19h sur BFM Business, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième heure de Good Evening Business avec, comme tous les soirs, Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, on a la Cour des comptes qui n'est pas du tout convaincue, c'est le moins qu'on puisse dire, par les 30 milliards d'euros d'économies annoncées par le gouvernement depuis 15 jours. On est loin du compte, nous dit en résumé Pierre Moscovici. On en parle évidemment ce soir dans Good Evening avec nos experts qui arrivent dans 10 minutes.
Audrey. Et oui, on parle aussi de l'adaptation de la France au changement climatique, puisque ça aussi, ça a été regardé de très près par la Cour des comptes. Et là encore, visiblement, eh bien, on n'y est pas. Et puis, est-ce que l'État doit être géré comme une entreprise, Thomas? En tout cas, c'est la question qu'on va poser ce soir à nos experts après le discours plutôt piquant d'Emmanuel Macron face aux hauts fonctionnaires de l'État. Soyez des managers, prenez des risques, ayez la culture du résultat, dit-il. Bref, le président veut que l'administration s'inspire des méthodes du privé.
Ça va faire réagir effectivement nos débatteurs ce soir. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico, Frédéric Bocara, économiste et membre des économistes atterrés, et Lien Mangnock, maître de conférence à Paris 1.
On attache notre ceinture. Un débat explosif.
Oui, exactement. On est en direct jusqu'à
20h. À tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Et avant de débattre, on commence le journal avec le chiffre du jour, l'inflation américaine en février. Bonsoir, Aude Kersulec.
Bonsoir, Thomas.
C'était évidemment le chiffre attendu aujourd'hui, à une semaine de la prochaine réunion de la Fed. Et Aude, on voit bien que l'inflation n'arrive pas à repasser sous les 3% aux États-Unis.
Oui, dans une première approche, ces chiffres, ils ne sont pas miraculeux. Hein, tout juste dans les attentes pour l'inflation globale, 3,2% sur un an pour le mois de février. Alors, ça accélère un petit peu par rapport au mois précédent, plus un dixième. On peut concéder un autre mauvais élément, c'est que l'inflation cœur, donc sans énergie, sans alimentation, fait moins bien que prévu. C'est celle qu'on qualifie la plus difficile à faire redescendre. Elle est toujours à 3,8%. Ça reste quand même plus qu'en Europe. Hein. On est tout juste au-dessus de 3%. Mais dans le détail, les raisons de cette hausse, elles ne sont pas significatives. Hein. Se disent les investisseurs, ce sont des hausses de prix de début d'année. Les autos d'occasion, les loyers, les billets d'avion, donc des rattrapages qui sont vraiment liés à la saisonnalité. Pas d'accélération. Alors, est-ce que ça peut bloquer l'action de la Fed? La bonne nouvelle, c'est que ça n'atténue pas l'optimisme des marchés financiers qui tablent toujours sur une baisse de taux de la Fed en juin et ils sont en hausse.
Bon, eh ben, on suivra évidemment très près les mots prononcés par Jérôme Powell la semaine prochaine pour voir si les anticipations de marché vont dans ce sens-là. Merci beaucoup, Aude Kersulec. L'autre driver des marchés en ce moment, vous le savez évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Et Emmanuel Macron, justement, va recevoir demain un rapport très attendu pour que la France accélère dans le domaine. Bonsoir Frédéric Simotel. Vous avez eu accès à ce rapport aujourd'hui pour BFM Business. Quelles sont ses principales mesures, Frédéric ?
25 propositions pour faire de la France l'un des grands pays de l'intelligence artificielle. Voilà ce que les 15 personnalités qui ont été retenues pour rédiger ce rapport ont tiré comme conclusion. Parmi ces conclusions, il y a 6 grandes lignes d'action qui vont être entreprises autour de la formation. Aujourd'hui, on dispose de 15 000 ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle. Il en faudrait 60 000 à l'horizon 2030. Donc, ils vont accélérer de ce côté-là. Le financement de l'innovation, lui aussi, est important. Il faut multiplier par 3 les financements actuels. Il faudrait atteindre 5 milliards d'euros par rang de financement autour des start-up, autour des centres de recherche, autour des entreprises, autour de l'intelligence artificielle. Et pour cela, il faut attirer davantage de fonds d'investissement étrangers. Et bien, ce rapport décrit quelques moyens, quelques pistes pour les attirer. On a un enjeu sur la puissance de calcul avec le supercalculateur Jean Zé, mais aussi d'autres supercalculateurs arrivés. En fait, parmi toutes ces grandes lignes d'action, ce à quoi veulent arriver ces experts, c'est une hausse du PIB qui pourrait être comprise entre 250 et 420 milliards d'euros d'ici 2030. D'ici 2035. Voilà ce que l'on retient de ce rapport. Et puis, dernière chose, il y aura un sommet de l'intelligence artificielle. Ce sera début 2025. Ce sera un sommet international qui se déroulera ici même à Paris.
Merci beaucoup, Frédéric, pour ce rapport que vous êtes procuré en exclusivité. 19h05. On poursuit avec ce plébiscite du télétravail en France chez les cadres, si l'on en croit la toute dernière étude de l'APEC sur le sujet, qui nous dit que 2/3 des cadres en France télétravaillent au moins un jour par semaine et un quart d'entre eux plus de 2 jours par semaine. Et visiblement, il n'est plus question de revenir en arrière pour les cadres en France. Caroline Morisseau.
Pour les cadres, le télétravail n'est plus une option mais un acquis, à tel point que près de la moitié d'entre eux, 45% précisément, seraient prêts à démissionner si leur entreprise y mettait fin. Une proportion qui monte même à 57% chez les plus jeunes de moins de 35 ans. Même chose en ce qui concerne les embauches. Là encore, le télétravail est devenu un critère rédhibitoire. Plus de la moitié des cadres refuseraient de rejoindre une entreprise qui ne propose pas de travail à distance. Il faut dire que la pratique a fini par s'installer partout, même dans les très petites entreprises. 54% des cadres assurent télétravailler régulièrement. Certains redoutent pourtant les conséquences sur leur évolution professionnelle. Plus d'un tiers craignent de rater des informations importantes. Un tiers encore a l'impression qu'à distance, leur manager voit moins leur charge de travail. Pour autant, pas question pour ces salariés de faire marche arrière. Comme le résume le patron de la PEC, le télétravail est devenu une composante structurelle de l'organisation du travail. Une entreprise qui y mettrait fin risquerait de perdre ses meilleurs talents.
Caroline Morisseau, dans l'actualité des entreprises, c'est Decathlon aujourd'hui qui fait l'actualité avec la présentation de son nouveau plan stratégique. Un plan dévoilé lors d'un grand show à Paris avec des danseurs et des athlètes professionnels et qui remet absolument tout à plat. Léo Dumas.
L'objectif principal, simplifier pour être plus désirable. Et cela passe par la réduction drastique du nombre de marques. Exit les fameuses Art & Go ou Wedze notamment. Le portefeuille se resserre à 13 marques contre 80 aujourd'hui. 9 catégories spécialisées d'abord. Par exemple, Quechua pour l'univers montagne ou Kipsta pour tous les sports collectifs. L'offre sera plus lisible pour les clients comme pour les salariés selon la direction. Reste en plus 4 autres marques expertes et destinées à concurrencer les meilleurs fabricants. Celles-là pourront être distribuées hors magasin Decathlon, une première pour le groupe. Dernier gros changement marketing, un tout nouveau logo, ovale qui rappelle le D de Decathlon. C'est le premier vrai symbole de l'histoire de l'enseigne et il sera appliqué sur toutes les gammes, quel que soit l'univers sportif. Il sera aussi visible sur les futurs vêtements appelés à être portés en ville, partout dans le monde, sur le modèle des géants Nike et Adidas.
Léo Dumas, et ce sera le focus de la chronique Morning Retail d'Eva Jaco demain matin dans la matinale. Et puis la fin de Wedze, c'est quand même un petit coup dur pour les fans de la marque. Et puis pour finir, 19h08 sur BFM Business, c'était le vote du jour au Parlement européen aujourd'hui. Et les députés ont voté pour l'autorisation de circulation en Europe des méga poids lourds au nom du verdissement du transport de marchandises en Europe. Mais le projet, vous allez le voir, est loin de faire l'unanimité. Alexandra Paget.
60 tonnes, 25 mètres de long, ces paquebots des routes permettraient logiquement d'économiser les trajets, donc le carburant et les émissions de CO2. Les transporteurs estiment pouvoir embarquer entre 50 et 75% de marchandises supplémentaires sans avoir à rajouter de camions sur les routes. Le hic, d'une part, selon les écologistes, sous prétexte de favoriser les véhicules électriques ou à l'hydrogène, le texte permettrait surtout pour l'instant à des camions grands comme la moitié d'une piscine olympique qui carburent au diesel de circuler. D'autre part, le doute plane du côté des transporteurs eux-mêmes. Ces titans roulent sur les grands axes des pays du Nord. Ils sont autorisés en Scandinavie, par exemple. Mais sont-ils vraiment adaptés aux structures routières d'Europe du Sud, où passer un rond-point avec un smirmorque peut déjà s'avérer compliqué? Leur poids, en outre, risque d'endommager nos routes. Enfin, l'arrivée de ces gigaliners inquiète les acteurs du fret ferroviaire. Ils pourraient en effet concurrencer le transport combiné, qui consiste à embarquer des camions de 40 tonnes sur des wagons. Ce ne sera plus possible avec des mastodontes de 60 tonnes.
60 tonnes, rien que ça. Allez, 19h09, on retourne sur les marchés. Les marchés, je vous redonne la clôture à Paris. Le CAC a fini dans le vert aujourd'hui à 8087 points. Un nouveau record en clôture. On va essayer d'aller chercher maintenant la barre des 8100 points. On a gagné 0,84%. Rebonsoir Aude. Comment ça se passe à Wall Street?
Ils sont en hausse les marchés. Je vous parlais d'optimisme tout à l'heure après le chiffre de la semaine, le CPI, donc l'inflation américaine. Et c'est vrai qu'on a regardé dans le détail pour l'apprécier, mais les investisseurs l'ont apprécié. Et donc là, ça monte. Le Dow Jones qui prend 0,5%. Le S&P 0,9%. Et la tech aussi qui monte bien puisque le Nasdaq grimpe déjà de 1,2%. Alors c'est assez contre-intuitif par rapport à un autre mouvement qu'on a sur le marché obligataire qui s'est tendu justement après cette publication. 4,15% pour le 10 ans américain. On a quand même gagné au moins une dizaine de points de base par rapport à hier. Mais la tech qui monte, c'est aussi l'effet Nvidia. On a rebondi après deux séances de baisse, quasiment 2% de hausse. Et puis l'effet Oracle aussi qui a publié son son troisième trimestre hier soir. Ça s'est bien passé, notamment pour le cloud. Aura qui a pulvérisé les attentes, on monte de quasiment 11% donc sur le Nasdaq. Et puis une autre valeur en revanche qui n'a pas la cote, c'est Boeing. Après une énième enquête ouverte, après un énième incident, on perd 4%. On est un peu bas de 4 mois donc pour Boeing, l'avionneur américain. Et donc les indices américains sont à la hausse après l'inflation américaine.
Ouais, et on perdait déjà 3% hier chez Boeing. Donc effectivement, c'est compliqué. Merci beaucoup, Odker Sulek. 19h10, on marque une pause et dans un instant, Audrey Tcherkov est de retour. Et nos experts, eux, arrivent pour débattre jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h13, bienvenue dans les experts du soir. Nous accueillons Frédéric Beaucarin, économiste et membre des économistes atterrés. Bonsoir.
Bonsoir Audrey.
Lim Angnok, maître de conférence à Paris 1. Bonsoir cher Lim. Et puis Jean-Marc, vous êtes resté avec nous. Évidemment, et vous êtes toujours éditorialiste à Atlantico,
oui,
n'est-ce pas?
Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure.
Allez, on commence avec le rapport annuel de la Cour des comptes, présidé par Pierre Moscovici, qui nous dit, comme chaque année, que nos finances publiques se portent plutôt mal. Mais la grosse différence cette année, c'est le timing. Ce rapport arrive quelques jours après les dernières annonces du gouvernement qui ont présenté un plan de 30, enfin un objectif en tout cas de 30 milliards d'euros d'économie. Et la Cour des comptes nous dit deux choses. Un, ça ne suffira pas. Et deux, la méthode n'est pas bonne. C'est inquiétant, non, Lim?
C'est le retour de l'austérité. On a eu une parenthèse au moment de la crise Covid.
Oui.
Parenthèse qui s'est ouverte auparavant où la Banque centrale elle-même avait observé qu'il y avait une certaine menace liée aux politiques d'austérité qui avaient été mises en place dans les années 70. Donc elle avait relâché sa politique monétaire et elle avait incité les États à utiliser la politique budgétaire, ce qui fut fait un petit peu avant la crise Covid, ce qui a été amplifié pendant la crise Covid, ce qui a été ensuite poursuivi au moment de la crise ukrainienne. Et ça a permis de relancer les économies, puisque on a fait du 7% l'année de la forte reprise en 2022.
Ouais.
Ça a réduit le taux d'endettement très précisément de 118 à 112 parce que ça a entraîné des recettes induites. Et malheureusement, on a levé les mesures de relance trop tôt. Et aujourd'hui, il y a une petite musique néoconservatrice qui s'installe, pas seulement en France, mais également en Europe, sous l'impulsion du ministre des Finances allemand qui a torpillé la réforme du pacte de stabilité, puisque la Commission avait, elle, compris qu'il fallait laisser des marges de manœuvre, au contraire, aux États pour engager la transition écologique. Eh bien là, c'est terminé. Ils ont tous sifflé la fin de la récréation en Allemagne, en France, la semaine dernière avec Bruno Le Maire. Aujourd'hui, la Cour des comptes, dont c'est le favori depuis que Migaud et Moscovici ont décidé de faire plus de zèle que les libéraux et les conservateurs. Nous les avions bien pratiqués au Parti Socialiste et nous avions ce débat qui n'a jamais été tranché. Cette aile droite du PS qui s'est retrouvée aux affaires et qui aujourd'hui dirige cette institution qui est la Cour des comptes, outrepasse les prérogatives de la Cour des comptes.
Enfin,
des recommandations de politique économique qui, par ailleurs, sont extrêmement discutables aujourd'hui. 50 milliards d'économies.
Alors justement, on en discute tout de suite, mais pardon, mais là quand vous mettez la France sur le même plan que l'Allemagne en termes de politique d'austérité, je vous rappelle que seuls 3 pays au sein de la zone euro ont une dette qui est supérieure à 110% de leur PIB, et la France en fait partie, juste derrière l'Italie et juste derrière la Grèce.
Bah oui,
mais... Non mais en termes de volonté politique, on est quand même très loin du compte.
Oui, mais la dette fait pas boule de neige. Il y a le faux lac. Si les taux de croissance sont inférieurs aux taux d'intérêt réels.
Non, mais on n'a plus de croissance, Lim. Là, on entre en récession.
Très précisément, qu'est-ce qu'on fait pour en avoir? Là, on est dans une spirale austéritaire où, en prenant ces mesures d'austérité, vous avez plongé l'Europe vers la récession. Les recettes induites vont se réduire, d'autant plus que les 50 milliards de baisses d'impôts faites depuis 2017 réduisent les recettes fiscales induites et vont conduire, si on a absolument comme objectif les 3% en 2027, à de nouvelles mesures d'austérité qui vont mener l'Europe vers une spirale austéritaire. Et c'est ça le danger aujourd'hui.
Mais pardon.
On est bien d'accord.
Oui, mais Frédéric Beaucarat, c'est pas la dépense publique à elle seule qui fait la croissance.
Écoutez, on va essayer de remettre un peu de cartographie là-dedans. D'abord, il y a deux raisons, à mon avis, aux annonces qui ont été faites. Il faut que les gens les aient en tête. Il y a une première, c'est la hausse des taux d'intérêt par la Banque Centrale Européenne, sur laquelle d'ailleurs Pierre Moscovici est totalement silencieux en termes de préconisation. Puisqu'il fait des préconisations, il pourrait aller jusque-là. Lim, toi, tu as fait un rapport là-dessus.
Alors, c'est pas tout à fait son périmètre.
Il pourrait dire qu'il y a une grosse question, quand même. Et que le gouvernement pourrait s'en préoccuper et trouver des outils de financement. Donc, il dit rien là-dessus.
Bah, elle est indépendante, la Banque Centrale, non ?
Elle est indépendante, mais les politiques peuvent dire des choses. Moi, je suis candidat aux européennes sur une liste qui dit des choses sur la Banque Centrale Européenne, par exemple. Donc, voilà. La première chose, c'est ça. Or, ça fait cette hausse des taux. Elle fait tout de suite 10 milliards de plus l'an dernier à payer, 15 à 18 milliards de plus ensuite. Et on est passé de 35 milliards à 57 milliards d'intérêts. C'est pas la dette, là. C'est les intérêts.
Non, mais on est bien d'accord. Mais là, on est
sur une tendance
baissière, Frédéric.
Attendez. Il dit dette alors que c'est intérêt.
Oui.
Donc déjà, il y a une petite triche. La deuxième chose, c'est la révision de la croissance à la baisse. Donc c'est le problème de la croissance et pas de la dette, qui amène à réviser, parce que la dette étant dans les mains des marchés financiers, on dit il va falloir faire la danse du ventre pour obtenir des financements.
Le gouvernement est passé de 1,4 à 1%, ça reste toujours au-dessus du consensus des économistes.
Oui, on est à 0,8 plutôt dans le consensus.
Ouais. 0,6 pour le CDE.
Révision des prévisions. On est passé pour les prévisions à 0,8 en dessous de 1.
Sauf qu'aujourd'hui, on a un budget qui est construit sur
1,4. Et pourquoi la révision fait qu'on dit qu'il faut prioriser la dette, parce que les marchés financiers finançant la dette, il faut faire la danse du ventre. Donc la question d'une monétisation de la dette et d'un financement par la Banque Centrale Européenne est posée aujourd'hui. Elle est sur la table, mais c'est un tabou chez les dominants. Mais alors, quelle est la cartographie ? Il y a des gens qui disent, le préalable, c'est la dette. Le préalable du remboursement de la dette. Ça, on a connu dans les années 30. 1931, le funeste Pierre Laval, socialiste indépendant à l'époque, fait une déflation massive en France. Brüning, en Allemagne, fait une déflation massive. C'est-à-dire, il casse les services publics, il casse les dépenses publiques.
Vous dites que c'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui.
Funeste, et c'est ce qu'il faudrait faire. Non. Spirale d'austérité, spirale de chute.
Donc,
Hitler au pouvoir en Allemagne.
Donc, il faut relancer la croissance.
C'est bien la question. Oui. Pour conjurer le risque de crise, il faut une autre impulsion. Comme on a fait en 44-45. Mais pas la même type d'impulsion. Pas un New Deal à la Roosevelt. Il faut d'autres types de dépenses. Il faut beaucoup. Il faut autrement, en priorisant l'emploi et pas le capital. Par exemple, pour la transition énergétique, il faut la recherche.
On va en parler.
La formation. On l'a parlé souvent ici. L'insuffisance de qualification, les périodes de qualification. Il faut des dépenses efficaces, donc un autre type de démocratie. Bien sûr qu'il faut des dépenses publiques efficaces. Pour faire levier sur les entreprises et une combinaison public-privé positif avec d'autres critères au lieu de chercher le profit. Donc il y a effectivement un basculement vers une toute autre impulsion. Et c'est ça le débat. Est-ce que c'est le préalable de la dette ou est-ce qu'on se développe pour avaler la dette et finalement conjurer les difficultés ? On peut le faire ensemble parce que les Allemands aussi sont en difficulté. Lim a raison de pointer l'Allemagne. Linder, il en rajoute sur l'austérité, mais l'Allemagne, ils disent on a besoin de dépenses publiques.
Alors, l'un et l'autre.
Ils disent il m'en manque 100 000 soignants, disent les Allemands.
Oui. L'un et l'autre, vous parlez d'austérité. Jean-Marc Sylvestre, est-ce qu'on peut parler d'austérité, 50 milliards d'euros, quand on a une dépense publique en France de 1 600 milliards d'euros ?
Non, évidemment, puisque nous sommes dans un pays pratiquement socialisé, avec cette masse de dépenses publiques et des dépenses.
C'est vrai que j'avais oublié votre humour.
Alors, ce que je retiens, c'est que dans la progression des dépenses publiques, il y a cette progression qui s'explique par un certain nombre de crises que Lim a rappelé sur le Covid. Je crois qu'on pouvait pas faire autrement que ce qui a été fait. Sur la crise en Ukraine, je crois pas qu'on puisse faire autrement que d'encaisser les coûts et de participer au soutien de la guerre que l'Ukraine mène en défense de l'agression russe. Et en revanche, c'est vrai que Pierre Moscovici a beau jeu de rappeler que l'ensemble des dépenses publiques de fonctionnement n'ont pas cessé d'augmenter, en dehors des choses exceptionnelles.
23 milliards par an.
Et là, on ne peut pas dire que la France ait fait un certain nombre d'efforts.
Pourquoi il faudrait faire ces efforts ? Vous avez un médecin ? Moi, je n'ai pas de médecin dans mon quartier.
Jean-Marc, terminé.
J'en ai un médecin, je pourrais vous
donner. Moi, j'en ai pas. Vous savez, en Ile-de-France.
Il y a en 2015.
Frédéric. Non, parce que c'est mensonge. En 2015, en 2015, en Ile-de-France, 6% des Franciliens vivaient dans un désert médical.
Je ne comprends pas.
6% des Franciliens vivaient dans un désert médical en 2015. Aujourd'hui, c'est 70% des Franciliens. Bon, il faut pas dépenser pour former des toubibs.
Très bien. Sur le sujet santé, on vous a entendu.
Ah bah oui, mais le sujet santé, c'est ça.
La parole. Ce que je voudrais.
Donc la propagande idéologique de Monsieur Sylvestre, elle ne vaut pas.
Mais c'est le débat, Frédéric.
Mais si c'est ça le débat,
Jean-Marc Sylvestre.
23 milliards, c'est ce qu'il faut former des toubibs.
Jean-Marc Sylvestre, on le laisse terminer.
Ouais. Mais il ne veut pas former de toubibs.
Soyez pour.
Il veut une retraite très élevée.
Non, mais c'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec vous qu'il ne faut pas laisser parler. Jean-Marc.
Je voudrais simplement souligner qu'effectivement, on a eu une progression anormalement élevée des dépenses de fonctionnement. Que ce soit les dépenses de fonctionnement des services publics, que ce soit des dépenses administratives, etc. Alors que, en dépit de ces augmentations de dépenses, le service public ne s'est pas mis à fonctionner. Il n'a pas eu de productivité. Tout le monde s'en plaint. La santé, vous avez raison, elle a bénéficié d'un certain nombre de crédits supplémentaires. Elle ne fonctionne pas. L'école...
La santé n'a pas de crédits supplémentaires. C'est faux.
Attendez, Frédéric.
C'est faux, elle n'a pas de crédits supplémentaires. Non, c'est faux.
Frédéric,
des prémices fausses, conclusions fausses.
Allez-y, Jean-Marc.
La santé n'a pas de dépenses de crédits supplémentaires. C'est faux.
Et d'autre part, à chaque fois qu'il y a un mouvement social revendicatif, on a eu tendance à sortir le carnet de chèques de l'État pour pouvoir acheter la paix sociale et calmer le jeu. Alors je pense que Moscovici a fait un coup politique et il met le ministre de l'économie dans une situation qui va être un peu compliquée parce que trouver 50 milliards d'économies dans les 3 ans qui viennent, ça va pas être facile s'il ne se résout pas à faire une réforme de fond qui, je reviens à ça, mais je veux pas vous fâcher, de réduire le périmètre de l'État. Parce que ça va être la seule solution. Vous pouvez pas vous contenter de raboter les choses, etc. Essayez de faire en sorte que les services publics soit fait par d'autres structures que des structures qui appartiennent à la sphère
étatique. Ça coûte plus cher quand c'est le privé. Donc, Philippe Ashkenazi l'a montré, quand c'est le privé, ça coûte plus cher.
Ça va être ça, la vie. Et je ne crois pas qu'il y ait un homme politique aujourd'hui en France, à droite comme à gauche, qui ait le courage de porter ce genre de politique alternative.
Et je réponds juste 30 secondes à Frédéric Bocara. Vous venez de dire si ça coûte plus cher quand c'est le privé. Mais... que ça coûte plus cher, c'est pas un problème. La dépense publique, quand elle réduit les inégalités, quand elle crée de la croissance, quand elle prépare l'avenir, c'est très bien. Il y a des très bonnes raisons de s'endetter. Et ce que pointe notamment le rapport de la Cour des comptes, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune dépense d'avenir qui est prévue. On ne prépare pas l'avenir, on le prépare plutôt très mal, avec en effet un déficit qui s'envole et une qualité de service public en face
alors,
qui s'écroule.
L'État ne prépare pas cet avenir. Il faut des dépenses d'avenir et les dépenses de fonctionnement peuvent faire partie des dépenses d'avenir. Si on pré-recrute des infirmières ou des médecins, c'est des dépenses d'avenir.
Et vous savez que 30% si des dépenses de l'hôpital, c'est fléché vers des dépenses administratives.
Et quand on investit dans l'hôpital, on détruit 2 bâtiments hôpitaux, on en construit un nouveau en supprimant des lits. Parce qu'on fait du capital et du béton pour briques au lieu de créer des emplois. Quelle est la dépense publique qui a le plus augmenté? C'est le CICE, du funeste Macron et Hollande. Oui, c'est le CICE, c'est 50 milliards d'un coup. Donc non, il y a vraiment un problème. Vous avez raison, il faut des dépenses publiques qui permettent de développer l'avenir, de préparer l'avenir. Et pour ça, il faut beaucoup, mais autrement. Non. Il faut arriver à manier.
On est bien d'accord sur le autrement. Voilà, Jean-Marc.
Et le beaucoup en même temps.
Je veux dire que pour que le système puisse fonctionner, il faut qu'il puisse créer de la richesse. Comment créons de la richesse? Comment crée-t-on de la
avec
richesse?
Avec des avances.
On crée de la richesse en mettant, en associant de l'innovation, des entrepreneurs, des ambitions et
des gens formés qui travaillent peut-être.
Oui, des gens formés qui ont la liberté de fonctionner dans l'entreprise et de laisser ces entreprises fonctionner. Dans un pays où vous avez plus de 60% de la création de richesse qui est dépensée dans des dépenses de dépenses publiques ou des dépenses
n'importe
sociales.
N'importe quoi, de la part de vous n'avez pas, c'est les médicaments qui font vivre Sanofi.
Vous m'arrêtez,
Frédéric.
Vous me laissez pas.
On laisse Jean-Marc terminer.
Alors laissez finir.
Allez-y.
Soyez au moins poli.
Excusez-moi, parce que ce que vous dites, on l'entend tous les jours.
Oui, la dépense publique, c'est 55%.
La dépense publique n'est pas génératrice aujourd'hui, malheureusement, de création de richesse. Ce serait une dépense publique d'investissement. Elle le serait, mais c'est une dépense de...
Non, fonctionnement, il faut que les gens comprennent, ça veut dire des salaires.
Et alors, comment
les infirmières, ça ne crée pas de richesse?
Comment se fait-il?
Les profs, ils ne créent pas de richesse?
Mais comment se fait-il que l'école ne fonctionne pas? Comment
se fait-il? Parce qu'on l'écrase, l'école. Regardez, vous avez vu à Cachan ce qui s'est passé?
Comment se fait-il?
Derrière chez moi?
Bon, on va laisser la parole à Limon.
Voilà.
Parce que lui aussi a des idées.
Comment se fait-il à l'hôpital, on supprime des lits?
Limon,
vous êtes informé,
vous êtes en campagne électorale.
Non,
vous faites de la démagogie.
Pas du tout. Si.
Alors, Limon, on vous écoute.
Moi, je suis très poli.
Si on respire un grand coup, on écoute Limon.
Comment piloter ce bateau fou de la dépense publique?
Je suis très poli, j'attends qu'on me donne la parole.
Alors, allez-y, c'est à vous.
Le rapport de la Cour des comptes oublie qu'il y a eu une revue générale des politiques publiques.
Exact.
Qui n'a rien donné.
La RGPP, oui.
Il y a eu ensuite une modernisation de l'action publique, la MAP, et que...
Qui n'a rien donné non plus.
Comme le dit Frédéric, si vous vous promenez dans les hôpitaux, dans les écoles, vous vous rendez compte qu'on est à l'os sur les effectifs.
Ouais.
On a eu Cap 22 aussi.
Voilà, donc là il y a un vrai sujet où les dépenses de fonctionnement sont complémentaires des dépenses d'investissement. Si vous investissez dans les hôpitaux mais que vous n'avez pas les infirmières et les médecins à côté, ça vous donne les situations qu'il y a aujourd'hui où les lits peuvent pas être ouverts. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans les déserts médicaux et dans les hôpitaux publics qui ont des problèmes. Allez voir aux urgences comment ça se passe.
Ouais.
Alors après, il y a un vrai débat de société. Est-ce qu'il faut plus ou moins d'État? Et on est en train de se débat avec Jean-Marc depuis qu'on débat ensemble depuis des lustres. Mais là, je voudrais lui dire qu'il y a un rapport de l'INSEE qui a été publié il y a quelques semaines et qui montre que le modèle de redistribution français est très efficace et qu'au contraire, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce que tous les pourfendeurs de l'État-providence avancent, après redistribution... redistribution en espèces et en nature, les inégalités entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, c'est de 1 à 3.
Ouais,
donc ce, fonctionne, ce modèle, il fonctionne très bien. Par ailleurs, sur la création de richesses, le juge de paix...
Mais comment se fait-il que ça ne fonctionne pas?
Le juge de paix, pardonnez-moi.
Comment se fait-il que ça ne fonctionne pas?
Le juge de paix entre les keynésiens et les libéraux, c'est le multiplicateur budgétaire. Le FMI a révisé en 2013 ses calculs du multiplicateur budgétaire et il montre que dans les pays de la zone euro, il est positif. Et en France, le multiplicateur budgétaire aujourd'hui, il est de 1,5. Ça veut dire que quand vous faites 100 milliards de dépenses publiques, votre PIB, il augmente de 150 milliards.
Mais
inversement, si vous coupez de 100 milliards, vous allez amputer le PIB de 150 milliards avec des recettes fiscales induites qui vont manquer
et des déficits qui vont se creuser.
Un taux d'endettement qui va se creuser.
Puisque vous êtes dans les multiplications, est-ce qu'on peut faire une soustraction ensemble? La dette publique augmente depuis 2020 de 750 milliards d'euros. Okay, ça, c'est l'augmentation de la dette. Depuis 2020. Sur la même période, le PIB augmente, lui, de combien? 350 milliards. Quand on fait le calcul, on voit bien que les courbes s'inversent et qu'il y a un vrai problème.
Non, mais vous avez le Covid dedans.
Mais d'accord.
Il a fonctionné en 2022.
Non, mais attendez, le ratio, c'est 3,5 fois plus que nos voisins européens.
C'est le Covid.
Non, mais attendez.
La moitié, c'est le recul du PIB avec le Covid.
Si vous prenez en longue période, quand la dette publique a été exposée, et c'est pas seulement en France, en Europe, elle a explosé au moment de la crise de 2008, parce que il a fallu sauver les banques, parce qu'avant, la moyenne, elle était à 68, hein, 68-69.
Alors, aujourd'hui, on a quand même 16...
Fébro qui tirait déjà la sonnette d'alarme.
Justement, aujourd'hui, on a encore 16 pays de l'Europe qui ont une dette inférieure à 60% de leur PIB.
Ça a bondi parce qu'on a sauvé les banques. On a sauvé les banques. Après, on a fait payer la note pendant la décennie 2010 au peuple, comme on dit communément, avec les politiques d'austérité. Ensuite, elle s'est recreusée au moment de la crise Covid, parce qu'avec tout ce qu'on a dit, il a fallu...
Non, mais ce n'est pas le cas de tous les pays européens.
Mais si, mais bien sûr que si.
Mais 16 pays européens ont une dette inférieure à 60% de leur PIB. C'est une
Allez,
réalité,
on va reprendre
ça.
Le,
oui, mais
on
la moyenne, elle est
au-dessus. Par exemple, dans les pays... Non, on va reprendre une... Pardon, on marque une petite
pause,
c'est
19h30,
c'est le rappel des titres, voilà. Et on reprend évidemment le débat, on est encore là jusqu'à 20h.
BFM Business présente... Good Evening Business, les experts du soir.
19h35, bienvenue dans les experts du soir. Nos experts ne se sont pas mis d'accord durant la pub, je vous le dis. Nous sommes toujours avec Jean-Marc Sylvestre, Frédéric Bocara et
Guy Montenon.
Oui, voilà, exactement. Voilà. C'est le principal. Bon, on continue à parler du rapport annuel de la Cour des comptes, puisqu'en plus de nos finances publiques, eh bien, la Cour s'est aussi penchée sur nos politiques d'adaptation au changement climatique. La conclusion, globalement, c'est la même que pour les finances publiques. On est loin du compte. Est-ce que ça veut dire que la France a mis trop de temps à se saisir du sujet ? Frédéric Bocara, si vous promettez de rendre la parole dans les temps, allez-y.
Je ne sais pas ce que sont les temps, ça dépend.
C'est un signe.
Mais, comment dire, il y a un problème. Tout à l'heure, je disais, il faut faire beaucoup et autrement. Et c'est la même chose pour ce qu'on appelle la transition climatique, énergétique, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un multiplicateur. Effectivement, la dépense publique peut avoir des effets. Mais on voit bien... Il y a un problème de contenu.
Oui.
Et donc, il faut s'y prendre autrement. Et pour la transition énergétique, on ne s'y prend pas comme il faut. Parce qu'on fait, grosso modo, on fait deux erreurs. On privilégie les infrastructures et le matériel, là où il faut faire au contraire une réorientation vers une économie basée sur les services, l'activité humaine et moins consommatrice de matière.
Oui.
Mais ça, ça veut dire qu'il faut entrer dans une autre relation avec les entreprises et peser sur leurs critères de décision, leurs critères de gestion. Donc il faut que l'État... Et c'est pour ça la deuxième erreur qu'on fait, l'État fait à côté des dépenses qui vont compenser ce que font pas les entreprises. Et donc on a une sorte de tonneau des Danaïdes où les entreprises... Elles font investissement à l'étranger et deux, trois trucs écologiques parce qu'elles sont persuadées, mais ce n'est pas très rentable. Et puis, à côté, l'État compense. Donc, il faut vraiment changer de logiciel là-dessus, changer les critères. C'est ça qui est très important.
Ce que le rapport dit aussi, Lim, c'est qu'il reconnaît en tout cas une prise de conscience sur le sujet de la part du gouvernement. Mais en effet, il dit que ça manque de stratégie générale et que pour le moment, c'est très flou.
Oui, mais moi, je vais mettre les pieds dans le plat.
Puis, allez-y.
Celui-ci est un vrai faux cul. Après nous avoir expliqué qu'il fallait trouver 50 milliards d'économies, il nous explique qu'il faut investir dans la transition écologique. On se demande comment. Et moi, je lui recommande la lecture du rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, qui conclut que l'engagement...
Il en parle, hein, dans son rapport.
Oui, mais s'il a bien lu, l'engagement public annuel, il est de 33 milliards par an.
Alors, plus même 40.
Qu'on pétait avec un engagement du secteur privé.
Ouais. Et dans ce cas-là, ça suppose que l'État s'endette, qu'on fasse du déficit budgétaire et qu'on finance cette transition écologique.
Non, mais
en menant la bataille à Bruxelles pour que la première version de la réforme proposée par la Commission revienne sur le tapis avant que l'Allemagne ne la bloque, la réforme du pacte de stabilité qui aujourd'hui impose aux États de réduire de 0,5 points par an leur déficit public. Et donc le vrai sujet, il est là. Le vrai sujet, c'est que si vous voulez trouver 30 milliards en plus par an, en plus des problèmes des hôpitaux, etc., vous ne le ferez pas avec l'austérité budgétaire. Or, c'est ce que recommande le rapport. Et moi, je crains que la partie écolo, ce n'est que si...
vous dites que c'est du greenwashing de la Cour des comptes.
Business pour peigner les murs.
Greenwashing de la Cour des comptes ou une préparation de Pierre Moscovici pour 2027.
Je suis un peu d'accord avec Lim. Je trouve que Pierre Moscovici exagère un petit peu, là, dans la mesure où tout le monde sait que nous ne sommes pas à l'heure. Tout le monde sait. Depuis le rapport Pisani-Ferry, on sait qu'il faut à peu près investir 30 à 40 milliards. La seule chose qu'on a décidée pour pouvoir participer à la mutation écologique, c'est de relancer le programme nucléaire. Oui. C'est le seul point sur lequel on a avancé. Mmh. Sinon, le reste de ce
qu'on a fait... La décarbonation aussi, quand même.
La décarbonation a été beaucoup faite par les entreprises privées qui se sont mises avec l'aide de l'État.
Avec l'aide de subventions publiques. Donc ça aussi, ça bouge là.
Je ne crois pas possible, dans le cadre du budget actuel, qu'on puisse faire cet effort-là. En revanche, il y a une réserve financière à Bruxelles que l'on connaît très bien. Thierry Breton en a encore parlé il n'y a pas très longtemps. Il y a à peu près le premier emprunt européen qui n'a pas été utilisé. 850 milliards.
Hein, ça, c'est le plan de relance européen en réponse au Covid.
Européen qui n'est pas encore libéré.
Il reste au moins la moitié de l'enveloppe.
Sur lequel il faut se mettre d'accord.
Oui, mais
sur
on s'est pas mis d'accord pour le moment dépenser l'argent.
Mais l'argent existe.
Oui.
Cet argent, il n'ira pas plomber le budget d'un des pays membres, puisque c'est la réserve qui a été...
C'est un bon point.
Je crois pas. Je pense que Moscovici joue là, finalement, il fait de la politique. Il est en train de démolir le maire, enfin bon.
Il est en campagne.
Il est en campagne, mais je ne sais pas pour qui et pourquoi.
En tout cas, il veut peser dans le débat public.
Pour lui.
Il veut peser dans le débat public.
Dans la cinquième, ça l'est en plus fou.
Il faudrait
parce que ça fonctionne quand même, tout ça. Ça peut fonctionner.
Si on regarde les émissions de CO2, de gaz à effet de serre par la France.
Oui.
Même si on prend l'empreinte, en fait, il faudrait prendre ce que font les banques dans le monde, les banques françaises dans le monde, mais ça, on le regarde pas. Mais si on prend l'empreinte, on voit qu'en fait, il y a pas vraiment une diminution. C'est-à-dire que la façon de faire, il y a eu des débuts de diminution dans les années 2000-2010, mais on a atteint des limites. Donc, ce qui est fait ne fait pas la maille, comme on dit. Donc, il y a vraiment un problème de changer d'envergure, changer d'échelle.
Ouais.
C'est pas seulement les entreprises font, elles font des petits trucs, mais elles font de l'autre côté d'énormes trucs qui font le contraire.
Vous savez bien. Pardonnez-moi de vous arrêter sur ce point-là, mais regardez bien ce qui se passe dans le monde agricole. Le monde agricole
précisément
a fait des manifestations parce qu'ils étaient serrés à cause des normes, à cause des investissements.
Précisément.
On a lâché là-dessus parce que le consommateur n'accepte pas de payer le surcoût.
Mais on fait à l'envers. Non, parce qu'il y a pas que
parce qu'il faut le payer quelque part.
Alors vous savez pas ce que je vais dire, vous allez deviner ou pas, mais Est-ce qu'on appuie, est-ce que les banques, le Crédit Agricole, appuient les consommateurs, les agriculteurs?
Non, mais...
Pour, quoi, non? Vous êtes non, pas, ils n'appuient pas.
Bah oui, mais
le Crédit Agricole doit appuyer les agriculteurs pour changer leur modèle de production.
Ils ne les accompagnent pas.
Non, ils n'accompagnent pas le Crédit Agricole. Ils les poussent au productivisme et à étendre leur taille.
Aller jusqu'au bout de la vérité.
Donc, attendez.
Le Crédit Agricole appartient aux agriculteurs.
On a déjà eu le débat, messieurs, vous deux.
Mutualisme. Excusez-moi, le Crédit Agricole, c'est du faux mutualisme.
Ah bon, alors
oui.
Bref, en tout cas, notamment, donc là on parle de l'agriculture, quid de la politique du logement? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un énorme trou dans la raquette concernant la transition.
Bien sûr, mais derrière la politique du logement, il y a un problème de formation. Il faut former des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'artisans. Donc c'est pas seulement investir. Or, ça n'est pas rentable, ça rapporte pas du profit, ça fait des richesses, ça fait de la valeur ajoutée, mais pas du profit. Donc il y a cet énorme enjeu. Et donc on peut pas se reposer sur les emprunts sur le marché financier. S'il n'y a que la création monétaire et les avances par la création monétaire qui peuvent permettre cela, comme on l'a fait après 44. C'est la question majeure qui est taboue aujourd'hui dans le débat, mais c'est celle de la création monétaire. Elle est taboue, parce qu'on a vu le quoi qu'il en coûte qui a mal débouché, mais parce qu'on l'avait mal ciblé.
Ça a débouché sur de l'inflation.
Qui avait mal débouché.
Ça a débouché
parce qu'on l'avait mal ciblé. Et donc, il y a un problème d'une création monétaire maîtrisée, orientée avec d'autres critères.
Lim n'est pas d'accord.
L'inflation n'est pas d'origine monétaire, mon cher Jean-Marc. Elle est d'origine structurelle avec le
coût des matières premières. Qu'on a vécu,
Je vous parle de celle-là, très précisément. Oui. Là où il n'a pas tort, Frédéric, c'est que sur la création monétaire, la Banque centrale sait faire, d'une certaine façon. Elle sait contourner les traités et elle l'a fait en opérant son fameux quantitative easing.
Elle a fait le job
sur le marché
secondaire. Mario Draghi a fait le job.
Les titres qui ont permis justement aux États pendant la période que j'évoquais tout à l'heure de relance de l'activité d'emprunter à bas coût sur le marché primaire. Parce que si la Banque centrale dit je rachète sur le marché secondaire, lorsque les banques centrales, les États émettent sur le marché primaire, ils émettent à bas taux. Et c'est ça qui a permis à tous les États de financer leur relance au moment de la crise Covid. Donc on sait exactement aujourd'hui comment faire pour permettre aux États d'avoir des taux bas et des taux inférieurs au taux de croissance de l'économie qu'ils pourraient stimuler avec la transition écologique. Mais on ne le fait pas parce qu'il y a un choix. Il y a un choix de politique économique en Europe aujourd'hui et c'est ce débat-là qu'on...
Bon, en tout cas, juste pour clore sur le sujet...
C'est cette question des taux qui doivent être
bas pour financer. Oui, absolument. Mais je voudrais quand même dire, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est la première fois que la Cour des comptes consacre un rapport entier à l'adaptation de la France au changement climatique. On peut quand même se dire que tout n'est pas perdu si les institutions commencent à se pencher enfin sur le sujet.
Ça a le mérite de faire la pédagogie pour vous dire.
Il y a quelque chose qui s'appelle l'ère du temps. Quand la question sociale était prégnante dans les années 70,
RSE.
Tout le monde s'est emparé de la question sociale et a fait du social. Là, l'ère du temps, il est très vert, et grâce aux écologistes d'ailleurs, et aujourd'hui, tout le monde se saisit de la question verte. Le problème,
mais pour
c'est,
faire un peu n'importe quoi derrière.
Le problème,
derrière,
c'est qu'est-ce qu'on met derrière, c'est quels moyens on dégage et quelle politique on fait. Et le vrai sujet, il est là, c'est que d'un côté, les libéraux et les conservateurs estiment qu'il faut pas d'engagement public.
On en a un de libéral.
La responsabilité
mais juste,
des entreprises,
juste pour que tout le monde comprenne bien
que les taxes carbone, soit sur le marché carbone européen, soit le mécanisme d'ajustement aux frontières, ça suffit.
Oui, oui.
Et donc, il n'y aura pas d'aide d'État, il n'y aura pas de politique
industrielle. La parole aux libéraux pour
juste, mais d'un mot quand même. Ça
m'ennuie profondément que vous mettiez les libéraux dans la même case que les conservateurs, parce que
c'est sortes de libéraux même différents.
Il y a toutes sortes de libéraux, je suis d'accord.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans l'air du temps, mais c'est un air du temps qui a été spolié de la vérité, c'est-à-dire qu'on a pas dit aux consommateurs que quelque part il faudra quand même payer le prix de la mutation.
Pas forcément le consommateur.
Ça peut être le capital
qui se fait avec les produits alimentaires. Il y a 30 milliards justement parce qu'ils ont conscience que ça va peser sur les citoyens. Et donc,
ils veulent pas faire appel à la création monétaire, c'est le problème. Mais je vais vous raconter une histoire.
Ils font appel à l'impôt notamment.
Ne racontez pas d'histoire, racontez la vérité.
Je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passée. C'est qu'au CESE, quand on a parlé de la transition climatique, en commission économique, il y a un représentant du patronat qui a dit au gars de la CFDT, mais ton rapport, il raconte que c'est rentable. C'est pas rentable, la transition climatique.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai. C'est une question. Et donc, la question, c'est celle-là. Est-ce que le capital va accepter de baisser ses rendements au lieu de faire une prédation? Ça, c'est un énorme enjeu.
C'est la vraie question.
Oui. Absolument, absolument. On a une autre vraie question posée ce matin, sera notre dernier thème de débat, par Emmanuel Macron, aux cadres dirigeants, comme il les appelle, autrement dit, les hauts fonctionnaires de l'État. Est-ce qu'il faut changer la culture de l'administration? Vous allez le voir, il est un petit peu secoué. On l'écoute.
Les lois dites du SOP ont permis de simplifier, de déconcentrer dans le texte les ressources humaines et leur gestion, c'est très hétérogène entre les ministères. Je fais donner par le ministre la grille. Il y a des ministères qui n'ont absolument pas appliqué, je ne suis pas ici pour désigner les mauvais élèves, c'est public, le ministre des Transformations publiques peut le partager. Les ministères, c'est comme si on n'avait pas pris la loi. C'est-à-dire, tout est resté au niveau central. Il y en a d'autres qui se sont appropriés la loi. Les textes ne valent que pour autant qu'ils sont utilisés. Et l'administration a cela de beau, c'est qu'au fond, si l'administration centrale décide de ne pas appliquer à elle-même ce qui a été voté, elle stérilise assez bien le dit texte. Donc je demande au ministre d'appliquer pleinement ce qui n'a pas été fait aujourd'hui, c'est-à-dire de déconcentrer la gestion des ressources humaines et de pleinement utiliser les leviers qui sont donnés aux managers publics.
Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de secouer les hauts fonctionnaires et de dire que l'administration affaiblit et ralentit le pays ?
Et il leur a passé un savon, là. C'est un peu ça,
est-ce qu'elle a eu raison de leur rentrer un peu dedans ? Parce que l'administration est coupable.
Ça fait des années que c'est la haute administration publique qui gouverne ce pays à travers ce que fait l'inspection des finances, celle qui a organisé les privatisations, quitte à les pantoufler elle-même dans les grandes entreprises qu'elle a privatisées. Ouais. Donc je trouve que la leçon est forte de café. Je crois ici que le président de la République agite l'ancienne du bureaucrate. Du bureaucrate qu'il faut mettre au pas, justement parce que le problème des libéraux aujourd'hui
est
d'arrimer dans leur bloc. Et je vous provoque à dessein,
Jean-Marc. Il n'y a pas de libéraux.
Les libéraux aujourd'hui qui forment le bloc macroniste, les Girondins et la droite orléaniste, ont un problème qui est que les néoconservateurs, ce que René Raymond aurait appelé la droite légitimiste, sont en train de lorgner vers une stratégie d'union des droites avec le Rassemblement National. Et dans les circonscriptions, ça commence à discuter comme ça. Donc leur gros problème, c'est de lancer tous les signaux nécessaires pour éviter qu'une partie de la bourgeoisie ne finissent avec l'extrême droite. Non. D'où les anciennes, comme ce qui vient d'être dit, ouais. D'où
la parole à la
loi sur l'immigration, d'où la surenchère sur l'austérité. Alors,
Jean-Marc, tes droits de réponse.
Des bureaucratisés. Mes cours d'histoire de la pensée économique sont trop loin maintenant et je ne vous suis pas du tout sur ce que vous avez dit. Ce que je veux dire, c'est que si le président de la République s'imagine qu'il peut tenir un discours de, comme il dit, de chef d'entreprise à ses cadres dirigeants, il se plante complètement. Parce que je ne connais pas beaucoup de présidents d'entreprises qui gèrent leur entreprise et leur encadrement comme on vient de le faire aujourd'hui avec l'encadrement public. L'efficacité d'une entreprise, c'est sa liberté. L'efficacité d'une entreprise, c'est la liberté des cadres et c'est la délégation de responsabilité avec un axe et une stratégie qui est clairement définie au départ.
Oui, la stratégie, d'accord, mais c'est aussi la culture de la performance, Jean-Marc.
C'est aussi la culture de la performance et de la récompense ou de la sanction. Où est la récompense dans la fonction publique, où est la sanction dans la fonction publique
quand ça ne marche
pas ? Où est la sanction quand ça ne marche pas ?
Ben regardez, Emmanuel Macron annonce dans le pacte une part de variable pour les enseignants.
Oui. Oui, enfin, on est en train de confondre les très hauts fonctionnaires et les enseignants.
Oui, vous avez raison.
Donc, c'est
dans son discours, là, on l'a pas entendu, mais dans son discours, il a parlé d'introduire une part de variable.
On parle de quatre dirigeants.
Non, mais voilà, c'est quand même pas la même chose.
Non, mais dans ce discours-là, il a aussi évoqué l'idée d'une part variable à la main du préfet.
Alors, moi, ça m'inspire. D'abord, il y a une course à l'échalote entre Emmanuel Macron et, d'une certaine façon, les droites, y compris le Rassemblement National, pour éviter la question du « il faut plus de dépenses ». On parle de débureaucratisation. Et d'ailleurs, l'allemand aussi, le ministre allemand, Linder, c'est même chose dans son interview d'une page dans Les Échos.
Tout à fait.
Donc, pour éviter la question de plus de dépenses et de autrement, il dit débureaucratiser.
Mais ils sont tous sur... Il n'a jamais éviter le plus que dépenses. Il n'a pas arrêté de faire plus que dépenses.
Non,
plus que
pour éviter le sujet... De faire plus. Après, il est poussé parce qu'il est aux manettes, qu'il y a des luttes, qu'il y a un corps social, que les gens, ils veulent être soignés, etc. Mais donc, il y a une course à échalote sur les idées, sur la bataille d'idées, pour habituer les gens à de l'austérité. On y revient au début. Mais il faut plus de dépenses. Et donc, le sujet, c'est pas la débureaucratisation. Par contre, il y a effectivement un sujet de débureaucratisation complémentaire. Oui. Parce que si on veut dépenser autrement, effectivement, il faut un tout autre type de démocratie. Mais là, ça doit pas être... Parce que la différence avec une entreprise, c'est que les fonctionnaires, ils ont une mission publique qui nous appartient à nous en tant que citoyens, d'une certaine façon. Mmh. Et donc, il y a au contraire un enjeu de démocratie.
Mais justement,
dans
là, ce
les entreprises,
c'est le compte n'y est pas pour les usagers. Le compte n'y est pas pour les usagers. C'est ce qu'il leur dit.
Oui, mais ça, c'est comme si c'était du marché.
Je me prends dans la tête
où
tous les
sont
jours.
Les clients ça, ça, c'est comme si c'était du marché. D'ailleurs,
où sont les clients,
des clients,
des consommateurs,
des clients, des clients et pas usagers.
Je suis client et consommateur.
Moi, je suis pas client. Moi, je suis usager. C'est pas.
Mais non, mais moi, je suis consommateur.
Non, mais lui, c'est pas que les usagers. Ils ne vont pas passer. C'est le compte n'y est pas.
Ils vont pas ces statistiques et heureusement.
Oui, non, mais donc on a compris. Ensuite, allez-y, terminé.
Donc, il y a un problème de. Là où sont les gens, là où sont faites les dépenses,
oui.
D'une démocratie, de l'usage des dépenses et de la possibilité de saisir l'administration et de pouvoir suivre les critères de dépenses. Parce qu'on a un troisième problème que vous avez souligné, merci. Qui est le cap n'est pas clair. Il est complètement contradictoire, le cap. Parce que Macron, grosso modo, il défend le capital, les ultra-riches, etc. Mais comme il est aux manettes, il est obligé de dire qu'il fait du social. Donc tout ça, c'est mélangé. Mais en réalité, si les gens dans les territoires pouvaient dire « Voilà, il y a un problème, ces aides publiques ne développent pas l'emploi. Voilà, il y a un problème, on ne développe pas. » Et on saisit. Et on a des instances de débat et de discussion.
Et bien alors, vous savez comment ça s'appelle pour Emmanuel Macron?
Ça change la démocratie.
CNR. Ça, ce que vous dites,
non,
s'appelle
parce
le
que
CNR.
C'est tout en haut, le CNR.
Il n'a, au moment, servi à rien du tout.
On pourrait... Et bien lui, il dit justement, je m'accroche, j'y crois du
Thomas Sabortas, le problème, c'est qu'il est complètement consultatif, le CNR. Si on avait quelque chose, effectivement, qui serait en dialogue.
Un, il est consultatif, et deux, toutes les personnes qui étaient en charge de ce CNR ont démissionné, donc voilà. C'est compliqué.
Mais si on pouvait saisir, au contraire, pour dire, là, il y a quelque chose qui ne se passe pas, là, il y a une dépense qui ne se passe pas, on commencerait à changer la démocratie. Donc, effectivement, dépenser autrement, ça veut dire donner d'autres pouvoirs aux citoyens, aux salariés dans les entreprises sur l'utilisation de l'argent. Ça, c'est une grosse question.
Eh bien, voilà.
Allez, en 30 secondes, Lim, le mot de la fin sur ce sujet. On ne gère pas l'État comme une entreprise.
Le problème, c'est que les services publics, c'est pas des services marchands, quoi.
Donc,
quels critères
donc ils sont pas obligés de fonctionner
service public.
Donc ils peuvent, les trains peuvent être en panne,
de
ils peuvent être en
faire du profit.
Non, mais c'est
là où c'est pas possible de faire du profit quand vous avez une ligne de chemin de fer pour raison de service public. Ou alors vous la fermez.
C'est extraordinaire.
On est encore en plein dans un débat de société.
Ce que tu dis. Les trains ont le droit d'être en retard. Voilà.
Non, les trains ont le droit de circuler sans être en panne pour assurer une liaison entre Auch et Toulouse, par exemple.
Ben oui, c'est ce qu'ils font.
Allez, le message est passé à Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF.
Allez, on prend. Il reste 3 minutes. À terminer, voilà, un débat apaisé.
Exactement, et on termine, ce sont les arrêts de jeu de Good Evening, avec l'extra time, vos coups de cœur et coups de gueule respectifs de l'actu. Balim, vous avez la parole, gardez-la.
30 secondes, hein, allez-y.
Oui.
Alors moi, c'est un coup de gueule. Le président de la République gesticule beaucoup sur l'Ukraine.
Oui.
Il dit qu'on est en économie de guerre, sauf que la seule usine qui fabrique des obus et qui est à Tarbes, les forges de Tarbes, elle est à l'arrêt. Parce que il devait y avoir des aides d'État à hauteur de 7 milliards qui ne sont toujours pas arrivés. Donc, je crois bien que...
Pardon, quoi ? 7 milliards ?
Oui.
Vous êtes sûr, autant d'un ?
7 millions, pardon.
Ah, ouais, d'accord.
Excusez-moi, parce qu'on est encore dans le budget, là. 7 millions d'aides d'État qui devaient arriver qui ne sont pas arrivés.
Attention, vous allez finir à la Cour des comptes. On fait des millions et des
milliards. Donc, là, il y a un vrai sujet.
Il y a en effet un vrai problème.
Frédéric ?
Alors, moi, c'est plutôt un coup de cœur. Anne Huillier, prix Nobel de physique en 2023.
Fait,
j'ai lu récemment dans mon journal du matin, enfin j'ai deux journaux du matin, j'ai Les Échos et L'Humanité. Dans L'Humanité, une très belle interview d'elle. Et je trouve que, d'abord, elle dit elle est très fière d'être la première prix Nobel femme de physique française après Marie Curie. En fait, la cinquième femme seulement à être prix Nobel de physique. Mais je trouve que son interview est assez édifiante parce qu'elle dit le temps long, la recherche, faut nous laisser le temps. Il y a des applications à un moment ou à un autre, il y a besoin de théorie. La chose qui me permet d'être utile, c'est d'enseigner en même temps, mais laissez-nous le temps au lieu de faire du financement par projet. Donc c'est effectivement, il faut du service public, du temps long et des missions.
Joli coup de cœur, Frédéric Bocara, Jean-Marc Sylvestre.
Bon, je vais vous mettre en colère. Je pense qu'il faudrait qu'on réapprenne ce qu'est l'État régalien, parce que l'État fait tout, il s'occupe de tout, il gère tout, il veut fixer les prix dans les magasins, fixer les salaires et les indexations, enfin n'importe quoi, c'est-à-dire total. Et résultat, il ne fait rien de bien, rien d'intérêt, et ça rate. L'État régalien, c'est quoi? C'est de s'occuper de la justice, de la sécurité dans les villes, parce qu'elle n'est pas assurée, de la défense nationale. Et à ce propos, je m'inscris en faux par rapport à ce qu'a dit Lim. Nous sommes le deuxième marchand d'armes du monde actuellement. S'il y a une industrie qui fonctionne, c'est celle de l'armement.
Mais c'est un type d'armement spécial.
Hein. Et le reste, laissez-le à des entrepreneurs, à des gens qui ont la liberté de fonctionner, l'innovation. Oui, l'école, parce que l'école privée ne fonctionne pas.
Les stats ont montré l'inverse.
Ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci à tous les trois.
On va continuer, évidemment, en sortant de ce plateau, Thomas, n'est-ce pas?
On est là, on bouge pas. Lim Wangnok, merci. Frédéric Bocara, Jean-Marc Sylvestre, merci d'avoir débattu avec nous ce soir. Merci à Vaudrey.
Eh bien, merci à vous, Tom Sass, c'est votre nom sur les réseaux sociaux. Bah oui. Donc, la mauvaise nouvelle, en effet, c'est que c'est terminé. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver. Pardon, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.fr. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
Absolument, en direct à partir de 18h. Mais pour l'heure, c'est Tech & Co, toute l'actu de la tech en direct sur BFM Business, 20h, 21h30 avec François Sorel. À demain.
Bonne soirée.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.